Chapitre 17. Le lendemain matin, Nekhludov se rendit chez l'avocat Fainitsine, lui exposa la situation de Menchov et le pria de vouloir bien prendre l'affaire en main. L'avocat lui répondit qu'il allait examiner le dossier et que si les choses s'étaient vraiment passées de la façon que disait Menchov, non seulement il consentirait sans doute à prendre l'affaire en main, mais s'en chargerait encore gratuitement, trop heureux d'une aussi belle occasion d'ennuyer la magistrature. Nekhludov lui parla ensuite des 130 malheureux carriers qu'on retenait en prison pour une erreur de passeport. Il voulait savoir de qui la chose dépendait, à qui en revenait la responsabilité. Fainitsine réfléchit un instant, visiblement en peine de trouver une réponse précise. « À qui revient la responsabilité ? » dit-il enfin. « À personne. Adressez-vous au procureur. Il mettra tout sur le compte du gouverneur. Interrogez le gouverneur. » Il vous affirmera que c'est le procureur qui est seul responsable. Au total, personne ne sera en faute. J'irai aujourd'hui même chez Maslenikov pour le mettre au courant. Bah, vous perdrez votre temps. C'est, mais pardon, il n'est ni votre parent ni votre ami, n'est-ce pas? C'est, passez-moi le mot, un tel crétin et avec cela une telle canaille. Nekhludov se rappela en quels termes Maslenikov lui avait parlé de l'avocat. Il ne répondit rien et prit congé. L'après-midi, il se fit conduire chez le vice-gouverneur. Il avait deux choses à lui demander. D'abord, la permission pour la Maslova d'être transférée au service de l'infirmerie, puis, si c'était possible, la mise en liberté des 130 carriers emprisonnés sans motif. Quelque répugnance qu'il eût à solliciter un homme qu'il méprisait, il se disait que c'était pour lui le seul moyen d'atteindre son but. En approchant de la maison des Maslenikov, il vit que la cour était pleine d'équipages, coupé, calèche, carrosse, et il se rappela avec épouvante que c'était le jour de Madame Maslenikov, ce jour où le mari de la dame l'avait si instamment invité à venir lui faire visite. D'un carrosse arrêté devant le perron, un magnifique valet de pied en pèlerine de fourrure, la cocarde au chapeau, aidait à descendre une dame qui, relevant la queue de sa robe, montrait un maigre mollet recouvert d'un bas de soie noir. Et parmi les voitures qui attendaient dans la cour, Nekhludov reconnut le landau des Korchagin. Le vieux cocher, gras et rouge, en l'apercevant, ôta son chapeau et lui sourit, avec un mélange de déférence et de familiarité. Nekhludov avait à peine fini de demander au portier si Michel Ivanovitch était chez lui, lorsque celui-ci apparut en personne au haut de l'escalier. Il reconduisait un hôte qui devait être un personnage d'une importance considérable, car il lui faisait l'honneur de l'accompagner jusqu'au bas des marches. Nekhludov reconnut, en effet, un des plus hauts fonctionnaires du gouvernement. S'entretenant en français avec Maslenikov, tandis qu'il descendait l'escalier, il parlait de tableaux vivants qu'on avait projeté d'organiser au bénéfice d'une œuvre charitable. Il exprimait l'avis que c'était, pour les dames, une excellente occupation. Elles s'amusent, et l'argent pleut. « Tiens, voilà ce brave Nekhludov !» s'écria-t-il, interrompant tout d'un coup la série de ses réflexions morales. « Comme il y a longtemps qu'on ne vous a vu, allez vite présenter vos devoirs à ces dames. Les Korchagin sont déjà là-haut, et Nadine Bukshayden aussi. Toutes les jolies femmes de la ville vous attendent, heureux gaillard » ajouta-t-il en tendant son large dos au valet galonné qui, respectueusement, lui remettait son manteau. « Au revoir, mon cher !» Il serra une dernière fois la main de Maslenikov. Montons vite au salon. Comme je suis ravi de te voir, dit celui-ci à Nekhludov d'un air tout surexcité. Puis, l'ayant empoigné par le bras, et courant avec l'agilité d'un jeune homme malgré sa corpulence, il l'entraîna le long de l'escalier. Sa joyeuse surexcitation, Nekhludov le vit bien, avait pour cause principale la satisfaction qu'il avait eue des égards à lui témoignés par le haut fonctionnaire. La bienveillance avec laquelle celui-ci l'avait traité avait fait naître en lui un enthousiasme du même genre que celui qu'on remarque chez les petits chiens d'appartement lorsque leur maître les a caressés, secoués, leur a tiré les oreilles. Les petits chiens remuent la queue, se tortillent ou se mettent à courir en rond sans l'ombre de motif. Tout cela, Maslenikov était prêt à le faire. Il ne remarquait pas l'expression sérieuse du visage de Nekhludov, ne l'écoutait pas. Et joyeusement l'entraînait vers le salon. Impossible de lui résister ni de s'excuser. Nekhludov dut le suivre. Nous parlerons d'affaires tout à l'heure. Et puis, tu sais, tout ce que tu voudras, je le ferai, dit Maslennikov en conduisant à travers l'antichambre ce visiteur malgré lui. Prévenez la générale que le prince Nekhludov est là, dit-il à un valet sur le seuil du salon. Après quoi, se retournant vers Nekhludov, vous n'aurez qu'à commander, je vous obéirai. Mais que tu vois d'abord ma femme, cela est indispensable. J'ai déjà eu suffisamment sur les doigts l'autre jour pour t'avoir laissé partir sans que tu l'aies vue. Quand ils entrèrent dans le salon, Anna Ignatievna, la femme du vice-gouverneur, la générale comme on l'appelait, fit à Nekhludov un petit signe d'yeux des plus aimables, par-dessus le cercle de tête qui entourait son divan. À l'autre extrémité du salon, autour de la table à thé, des dames étaient assises, causant avec des hommes debout devant elles, et l'on entendait un bourdonnement ininterrompu de voix graves ou flûtées. « Enfin, vous ne voulez donc plus nous connaître? Êtes-vous fâchés? Qu'est-ce que nous vous avons fait ?» C'est par ces mots, donnant à supposer entre elle et Nekhludov une intimité qui jamais n'avait existé, c'est par ces mots qu'Anna Ignatievna accueillit le nouveau venu. « Vous vous connaissez, n'est-ce pas, Madame Bievlaskaya, Michel Ivanovitch Tchernov, allons, asseyez-vous là, tout près de moi. Missy, venez donc à notre table, on vous apportera votre thé, » reprit-elle en élevant la voix et en s'adressant à l'autre groupe. « Et vous, prince, un peu de thé ?» Jamais vous n'arriverez à me le faire croire. Elle ne l'aimait pas, voilà tout, dit une voix de femme. C'est excellent, ces gaufrettes, et si léger, dit une autre voix. Donnez-moi donc encore une. Et vous partez déjà pour la campagne? Oui, demain. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui. Un si beau printemps. Il doit faire si bon sous les arbres. Coiffée d'un petit chapeau de velours, vêtue d'une robe rayée qui dessinait merveilleusement sa taille fine, Missy était très belle. Elle rougit en apercevant Nekhludov. « Je vous croyais parti, dit-elle. « Je suis sur le point de partir, répondit Nekhludov. « Les affaires me prennent tout mon temps, et je ne suis venu ici que pour affaires. « Je vous en prie, venez voir maman avant de partir. Elle a absolument besoin de vous voir. » Elle sentit qu'elle mentait et qu'il le sentait aussi, et elle devint encore plus rouge. « Je crains de n'avoir pas le temps, répliqua Nekhludov, d'un ton qu'il essayait de rendre indifférent. Missy fronça les sourcils, haussa légèrement les épaules et se retourna vers l'élégant officier avec qui elle causait au moment où Nekhludov était entré, et qui, cognant son sabre aux chaises, s'était précipité vers elle pour lui reprendre des mains sa tasse vide. « Vous aussi, vous devez vous sacrifier pour notre refuge. Mais je ne m'y refuse pas. Je veux seulement garder tous mes moyens pour les tableaux vivants. Vous verrez comme j'y suis remarquable. » Le jour d'Anna Ignatievna était des plus brillants, et la dame était dans le ravissement. « Mika m'a dit que vous vous intéressiez à nos prisons, dit-elle à Nekhludov. Comme je comprends cela. » Mika, c'était son gros mari, Maslennikov, peut avoir ses défauts. Mais vous savez combien il est bon. Tous ces malheureux prisonniers, ce sont ses enfants. Toujours, il me le dit lui-même, il est d'une bonté. Elle s'arrêta, faute de trouver un mot assez expressif pour définir la bonté de son mari. Et soudain, avec un sourire, elle se tourna vers une vieille dame au visage renfrogné, une dame tout en ruban lilas qui venait d'entrer. Après être resté assis quelques instants et avoir échangé quelques paroles insignifiantes, telles qu'il les fallait pour ne pas troubler le charme de cette causerie, Nekhludov se leva et rejoignit Maslennikov. « Eh bien, peux-tu m'accorder un instant ?»« Mais parfaitement, qu'y a-t-il »« Ne pourrions-nous pas nous asseoir dans quelque autre pièce ?» Maslennikov le fit passer dans un petit cabinet japonais attenant au salon. Tous deux s'assirent près de la fenêtre. « Et maintenant, je suis à toi. Veux-tu fumer ? Mais attends une seconde, je vais aller chercher un cendrier. Inutile de salir le tapis, n'est-ce pas ?» Maslennikov se mit à la recherche d'un cendrier, puis, se rasseyant en face de Nekhludov, « Je t'écoute. Eh bien voilà, je suis venu pour affaires. J'ai à te parler de deux choses. Va, je t'écoute. » Le visage de Maslennikov, au mot d'affaires, se rembrunit. Aucune trace n'y resta plus de la joyeuse animation du petit chien à qui son maître a fait la faveur de le caresser. Du salon arrivaient des bruits de voix. Une voix de femme disait « Jamais, jamais vous ne me le ferez croire. » Une voix d'homme plus loin racontait une histoire où revenaient sans cesse les noms de la comtesse Voronzoff et de Victor Apraxine. Tout cela accompagné de murmures confus et d'éclats de rire. Et Maslennikov, écoutant d'une oreille ce qui se disait dans le salon, prêtait distraitement son autre oreille aux explications de Nekhludov. « D'abord, dit celui-ci, j'ai de nouveau à te demander quelque chose pour cette femme dont... Ah oui, celle qui a été condamnée injustement. Je sais, je sais. Je voudrais te prier de la faire transférer au service de l'infirmerie. On m'a dit que c'était possible. » Maslennikov serra les lèvres et réfléchit un moment. « Je ne sais pas trop si c'est possible, » répondit-il d'un air important. « D'ailleurs, je vais m'informer. Demain, je te télégraphierai ce qui en est. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de malades et qu'on avait besoin de gardes supplémentaires. Nous verrons cela, nous verrons cela. De toute façon, je te télégraphierai la réponse. Je t'en serai bien reconnaissant, » dit Nekhludov. Du salon, soudain, s'éleva un grand rire. « Je parie que c'est encore ce farceur de Victor, » dit Maslennikov avec un sourire. « Tu ne peux pas te figurer comme il est drôle, une fois en train. »« Quant à l'autre chose dont j'ai à te parler, » reprit Nekhludov, « voici ce que c'est. Il y a en ce moment dans la prison du gouvernement une équipe de 130 ouvriers qu'on tient sous clé simplement parce que leurs passeports se sont trouvés périmés. Ils sont là depuis plus d'un mois. » Et il exposa le détail de l'affaire. « Comment donc as-tu appris cela ?» demanda Maslennikov. Son visage, tout d'un coup, avait pris une expression d'inquiétude et de mécontentement. « J'allais voir un condamné, et comme je passais dans le corridor, ces malheureux m'ont arrêté pour me prier. Et qui était ce condamné que tu allais voir ?»« Un paysan faussement accusé d'incendie, et à qui je me suis occupé de trouver un défenseur. Mais cela n'a rien à voir avec l'objet de ma visite. Ce que je veux savoir de toi, c'est si, effectivement, ces 130 ouvriers n'ont pas commis d'autre faute que de n'avoir pas leur passeport en règle. Et dans ce cas, cela regarde le procureur, » interrompit Maslennikov d'un ton dépité. Ah, ces magistrats, tu peux en parler. C'est au procureur de visiter les prisons et de voir si les détentions sont légales. On le paye pour cela. Et lui, il ne fait rien. Il joue au whist. De sorte que tu ne peux rien y faire, » demanda Nekhludov, se rappelant que l'avocat l'avait prévenu que gouverneur et procureur se rejetteraient l'un sur l'autre toutes les responsabilités. « Comment si je ne peux rien y faire ? Mais si, parfaitement, je vais aussitôt commencer une enquête. »« Tant pis pour elle, c'est un souffre-douleur !» s'écria une voix de femme dans le salon. Et de nouveau, il y eut un rire général. « C'est entendu, mon cher. Je ferai ce qu'il y aura à faire, » reprit Maslennikov en éteignant sa cigarette entre les gros doigts de sa main. Et maintenant, hein, si nous retournions auprès de ces dames. » Mais Nekhludov l'arrêta sur le seuil du salon. On m'a dit que l'autre jour, dans la prison, deux détenus ont été punis du fouet. Est-ce vrai ? Maslennikov devint tout rouge. Ah, on t'a dit cela ? Non, mon cher, décidément, il ne faut plus qu'on te laisse ainsi fourrer ton nez partout. Tout cela, vois-tu, ce ne sont pas tes affaires. Allons, viens, Annette nous appelle, dit-il. Et le prenant par le bras, il l'entraîna dans le salon. Mais Nekhludov se dégagea de son étreinte. Sans parler à personne, sans paraître voir personne, il traversa le salon et descendit l'escalier. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Annette à son mari. « Bah, c'est un original. Il a toujours été comme ça. » Quelqu'un se leva pour sortir, quelqu'un entra, et les papotages reprirent leur cours. Tout le monde était ravi du sujet de conversation que venait de fournir si à propos la visite de Nekhludov. Grâce à elle, le jour de Madame Maslennikov s'acheva brillamment. Le lendemain, Nekhludov reçut du vice-gouverneur une lettre écrite sur une épaisse feuille de papier glacé avec un superbe en-tête armorié. Maslennikov s'était informé de la possibilité pour la femme Maslov d'être transférée au service de l'infirmerie. Suivant toute vraisemblance, la chose pouvait se faire. Au-dessus de la signature, ornée d'un paraphe des plus compliqués, Maslennikov avait mis « Ton vieux camarade qui t'aime bien quand même ». Quel sot, ne put s'empêcher de se dire Nekhludov, écœuré du ton de condescendance de ce fâcheux camarade. Chapitre 18. Un des préjugés les plus enracinés et les plus répandus consiste à croire que tout homme a en propre certaines qualités définies, qu'il est bon ou méchant, intelligent ou sot, énergique ou apathique, et ainsi de suite. Rien de tel en réalité. Nous pouvons dire d'un homme qu'il est plus souvent bon que méchant, plus souvent intelligent que sot, plus souvent énergique qu'apathique, ou inversement. Mais dire d'un homme, comme nous le faisons tous les jours, qu'il est bon ou intelligent, d'un autre qu'il est méchant ou sot, c'est méconnaître le vrai caractère de la nature humaine. Les hommes sont pareils aux rivières, qui toutes sont faites de la même eau, mais dont chacune est tantôt large, tantôt resserrée, tantôt lente et tantôt rapide, tantôt tiède et tantôt glacée. Les hommes, eux aussi, portent en eux le germe de toutes les qualités humaines, et tantôt ils en manifestent une, tantôt une autre, se montrant souvent différents d'eux-mêmes, c'est-à-dire de ce qu'ils ont l'habitude de paraître. Mais chez certains hommes, ces changements sont plus rares, et mettent plus de temps à se préparer, tandis que chez d'autres, ils sont plus rapides et se succèdent avec plus de fréquence. À cette seconde classe d'hommes appartenait Nekhludov. Sans cesse, sous l'influence de causes diverses, physiques ou morales, de brusques et complets changements se produisaient chez lui, et c'était un de ces changements qui venait de s'y produire. L'impression de joyeux enthousiasme, la conscience comme d'un rajeunissement de tout son être, tous les sentiments qu'il avait éprouvés à la suite de la séance de la cour d'assises et de son premier entretien avec Katyusha, tout cela avait désormais disparu. Et son dernier entretien avec la jeune femme avait changé tout cela en une profonde épouvante, où se mêlait de plus en plus une répugnance cruelle. Il avait cependant résolu de ne pas abandonner son ancienne maîtresse. Et il continuait à se dire qu'au besoin, il se marierait avec elle, si, revenant sur son premier mouvement, elle y consentait. Mais cette perspective ne lui apparaissait plus que comme un dur et douloureux sacrifice. Le lendemain de sa visite à Maslennikov, il retourna à la prison pour revoir Katyusha. Le directeur lui accorda l'autorisation de la voir, mais dans le parloir des femmes, et non plus au bureau, ni dans la petite salle des avocats où avait eu lieu leur dernière entrevue. Malgré toute sa bonté naturelle, le directeur avait ce jour-là, vis-à-vis de Nekhludov, un ton et des manières tout autres que les jours précédents. Évidemment, la visite de Nekhludov à Maslennikov avait eu pour conséquence de faire prescrire au personnel de la prison une attitude plus réservée à l'endroit d'un visiteur aussi indiscret. « Oui, vous pourrez la voir un instant, » dit le directeur. « Mais n'est-ce pas, pour l'argent, vous vous rappellerez ce dont je vous ai prié. » Quant à son transfert au service de l'infirmerie, Son Excellence le vice-gouverneur m'a fait l'honneur de m'écrire à ce sujet. Eh bien, la chose est possible, et le médecin y consent, mais c'est elle-même qui n'y consent pas. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'aller vider les pots de chambre des galeux. Ah, prince, on voit bien que vous ne connaissez pas cette engeance-là. Nekhludov ne répondit rien, et se dirigea vers le parloir des femmes. Le directeur donna ordre à un gardien d'aller chercher la Maslova. Le parloir était vide quand Nekhludov y entra. Mais à peine y était-il depuis quelques minutes que la porte du fond s'ouvrit et que la Maslova s'avança vers lui, silencieuse et timide. Elle lui serra la main, s'assit près de lui, et sans le regarder, elle dit presque tout bas « Pardonnez-moi, Dimitri Ivanovitch, je vous ai mal parlé il y a 3 jours. »« Ce n'est pas à moi de vous pardonner, » commença Nekhludov. « N'importe, mais tout de même, « il faut que vous me quittiez, » reprit-elle. Et dans ses yeux, plus louches qu'à l'ordinaire, Nekhludov lut de nouveau une expression hostile. « Et pourquoi dois-je vous quitter ?»« Il le faut, voilà tout. »« Comment, voilà tout ?» Elle ne répondit rien et leva encore sur lui un regard méchant. « Eh bien, » dit-elle enfin, « voilà ce qui en est. Il faut que vous cessiez de vous occuper de moi. Je vous le dis comme je le pense. » Je ne puis le supporter. Vous cesserez de vous occuper de moi, répéta-t-elle, les lèvres tremblantes. C'est la vérité vraie, j'aimerais mieux me pendre. Nekhludov sentait que dans cette défense entrait une part de haine pour lui, d'impossibilité de lui pardonner l'inoubliable offense. Mais il sentait qu'autre chose encore y entrait, quelque chose de noble et de beau. Et la façon assurée et tranquille dont la jeune femme lui renouvelait sa défense de s'occuper d'elle eut aussitôt pour effet de détruire tous ses doutes et de le remettre dans la disposition enthousiaste où il s'était trouvé 3 jours auparavant. « Katioucha, ce que je t'ai dit, je le maintiens, » dit-il d'un ton grave et ferme. « Je te prie de consentir à te marier avec moi. Et si tu t'y refuses, aussi longtemps que tu t'y refuseras, je resterai près de toi. Je te suivrai, j'irai avec toi où l'on te conduira. Cela, c'est votre affaire. Je ne dirai pas un mot de plus, » répondit-elle. Et de nouveau, ses lèvres tremblèrent. Il se taisait, lui aussi. Il ne se sentait pas la force de parler. Enfin, s'enhardissant, « Katioucha, lui dit-il, je vais maintenant aller à la campagne pour régler certaines affaires. Et ensuite, j'irai à Saint-Pétersbourg, où je m'occuperai de votre pourvoi. Et si Dieu le veut, je ferai casser votre condamnation. Qu'on la casse ou non, tout m'est égal. Qu'une chose m'arrive ou une autre, le résultat sera toujours le même. » Elle s'arrêta. Et Nekhludov crut voir qu'elle avait peine à retenir ses larmes. « Eh bien, dit-elle après un assez long silence, parlant très vite comme pour cacher son émoi, « Eh bien, avez-vous vu Menchov? N'est-ce pas que ces gens-là sont innocents, n'est-ce pas? C'est évident. J'en mettrai ma main au feu. » « Oui, je crois bien qu'ils sont innocents. Si vous saviez quelle admirable vieille femme !» Il lui raconta en détail tout ce qu'il avait appris au sujet de Menchov. Puis, revenant à elle, il lui demanda si elle avait besoin de rien. Non, de rien, absolument. Il y eut de nouveau un silence. Ah, et pour ce qui est de l'infirmerie, reprit-elle, en lui lançant un regard de ses yeux qui louchaient, eh bien, si vous le désirez, j'irai. Et pour l'eau de vie aussi, eh bien, j'essaierai de ne plus en boire. Nekhludov, sans rien dire, la regarda dans les yeux. Il vit que ses yeux souriaient. « Cela est bien, très bien. » Il ne trouva la force de rien dire de plus. « Oui, oui, elle pourra changer, » songeait-il. Après les doutes des journées précédentes, il éprouvait à présent un sentiment tout nouveau pour lui, un sentiment de foi dans la toute-puissance de l'amour. En rentrant dans la chambrée puante, retour de cette visite, la Maslova ôta sa veste et s'assit sur son lit, les mains appuyées sur les genoux. La chambrée était presque vide. Seule s'y trouvaient la Ftizik, la mère allaitant son enfant, la vieille Menchova et la garde-barrière. La fille du diacre avait été la veille reconnue folle et transportée à l'infirmerie. Les autres femmes étaient au lavoir. La vieille dormait étendue sur son lit. Les enfants jouaient dans le corridor. On entendait leurs rires et leurs éclats de voix. La garde-barrière, sans s'interrompre de tricoter le bas qu'elle tenait à la main, s'avança vers la Maslova. « Eh bien, tu l'as vue ? » demanda-t-elle. La Maslova ne répondit rien. Assise sur son lit, elle remuait machinalement ses jambes pendantes. « Allons, allons, ne pleurniche pas !» reprit la garde-barrière. « L'essentiel est de ne pas se décourager. Hé, Katioucha, allons !» La Maslova continuait à ne pas répondre. Les autres sont allés au lavoir. On dit que la quantité de linge à laver est énorme aujourd'hui. Au même instant, on entendit dans le corridor un grand bruit de pas et de voix, et les habitantes de la chambrée se montrèrent sur le seuil, les pieds nus, chacune portant un pain sous le bras. Fedosia accourut auprès de la Maslova. « Eh bien, quoi, quelque chose de mauvais ? » demanda-t-elle, en levant sur son amie ses clairs yeux bleus d'enfant. « Attends, je vais te préparer ton thé. »« Et alors, » dit la Korableva, « il a changé d'avis ? Il ne veut plus se marier ?»« Non, il n'a pas changé d'avis. C'est moi qui ne veux pas. Je lui ai déclaré que je ne voulais pas. »« En voilà une sotte, » déclara la Korableva de sa voix de basse. « Elle a bien raison, » dit Fedosia. « Quand on ne peut pas vivre ensemble, à quoi bon se marier ?»« Mais toi-même, ton mari, ne va-t-il pas au bagne avec toi ?» demanda la garde-barrière. « Mon mari, c'est autre chose. Nous étions mariés quand on m'a prise. La loi nous unit. Tandis que lui, à quoi vont se marier s'il ne vit pas avec elle ?»« Tais-toi, idiote !»« À quoi bon ? Mais s'il se mariait avec elle, il la couvrirait d'or. »« Il m'a dit, où l'on t'enverra, j'irai avec toi, » dit la Maslova. « Il ira, bien sûr. Mais qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, peu m'importe. Ce n'est pas moi, en tout cas, qui le lui aurais demandé. » « Il part à présent pour Saint-Pétersbourg, » reprit-elle après un silence. « Il va s'occuper de mes affaires. Il est parent là-bas avec tous les ministres. » puis se ravisant encore. « Mais tout de même, je n'ai pas besoin de lui. Il ferait mieux de me laisser tranquille. » « Voilà une drôle d'histoire, » dit la Korableva d'un ton distrait. « Et maintenant, hein, un peu d'eau de vie ?»« Non, merci, » répondit la Maslova. « Mais vous, buvez-en, c'est moi qui paierai. » Fin de la première partie.